Radio Foot International. CAN Total. Égypte 2019. Annie Gasnier.
Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce studio de Radio Foot International sur RFI, bien entendu. En cette période de CAN, nous sommes en sortie de match et vous pouvez aussi nous voir, nous regarder à travers le Facebook Live. Surtout, si vous nous regardez et si vous aimez, partagez, c'est important. Alors aujourd'hui, eh bien évidemment, ce sont les premiers quarts de finale dont nous allons parler avec des Lions du Sénégal, premiers qualifiés. Le Sénégal revient dans le dernier carré 13 ans plus tard. La dernière fois, c'était en 2006. Ils sont rejoints par les Super Eagles dans ce groupe restreint. Sénégal et Nigeria qualifiés, donc Bénin et Afrique du Sud éliminés sans avoir démérité. Nous allons revenir tous ensemble sur ces rencontres pour vous expliquer. Demain, Sénégalais et Nigérians connaîtront leurs adversaires. Alors qui de la Côte d'Ivoire ou de l'Algérie, des éléphants décevants ou des fennecs impressionnants se qualifieront aussi dans ce dernier carré, ou bien dans l'autre quart de finale, qui des Baréa, qui veulent rester en Égypte, bien sûr, après la surprise qu'ils ont créée face aux Aigles de Carthage. Nous essaierons donc de deviner. La VAR est entrée en jeu et déjà deux buts annulés pour un troisième confirmé. La VAR, vedette de ces deux premiers quarts de finale. Enfin, les championnes du monde reçues comme des stars dans les rues de New York. Petit crochet par les États-Unis pour évoquer ces joueuses américaines dignement fêtées pour leur quatrième étoile. Et nous en parlerons eh bien, avec Franck Simon. Bonsoir Franck.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Merci d'être au rendez-vous nocturne de Radio Foot International. Mais ça vaut le coup hein, quand on a eu des matchs comme ce soir et qu'on a envie d'en parler.
Exactement.
Et puis il y a Freddy Koula, notre confrère gabonais. Bonsoir Freddy.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous. Content d'être sur le Facebook Live. On vous voit enfin.
On peut voir vos visages, messieurs, autant que le mien. Radio Foot, c'est parti. De la musique, la fête dans les rues de Dakar, le Sénégal est en fête car les Lions ont gagné, ils ont battu les écureuils après un match disputé où le Sénégal a souffert avant de s'imposer, avant aussi de franchir la barrière défensive du Bénin. Finalement, les Sénégalais sont en demi-finale donc et le milieu de terrain, Henri Cévé, était très heureux au micro de David Kalfa.
On l'a dit hein, depuis le début, on le dit, hein, aucun match ne va être facile. On est tombé contre un adversaire compliqué, le Bénin, qui même en phase de poule, n'a pas perdu contre le Cameroun, n'a pas perdu contre le Ghana, a réussi à éliminer le Maroc. Donc on savait que ça allait être un match compliqué, on savait que ça allait prendre peut-être du temps, mais voilà, on ne s'est pas affolé. On avait une idée vraiment bien précise. Et vraiment, aujourd'hui, on est content du travail qu'on a fourni. Et le staff a vraiment bien travaillé pour mettre cette équipe en difficulté. Donc on est très content et on va savourer, voilà, on avance petit à petit. Ouais, c'est une demi-finale qui nous attend. Nous, on l'a dit depuis le début, on va travailler et se qualifier. Donc c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, il faut continuer.
Qu'est-ce que ça vous fait de vous qualifier pour la demi-finale pour la première fois depuis 2006?
Bon, on est très content. C'est une nouvelle génération qui est là, donc on va vraiment tout faire pour écrire notre propre histoire. Et on va travailler encore parce qu'il y a encore des choses à améliorer, bien évidemment. Mais aujourd'hui, vraiment, on est très content.
On est très content, évidemment, hein, quand on réalise une performance attendue et très attendue. Olivier Pron, bonsoir.
Bonsoir Ali, bonsoir à tous.
Alors Olivier, nos confrères et tous nos auditeurs ont pu vous entendre sur l'antenne de RFI commenter ce match. Ce qu'on peut dire, c'est que la qualification n'a pas été facile. En tout cas, les Sénégalais ont réussi à éviter le piège qui, jusque-là, avait fonctionné, le piège béninois.
Oui, le rideau défensif béninois, il a pas mal fonctionné, mais ils ont montré plus que cela. On parlera du Bénin tout à l'heure. C'est paradoxal parce qu'ils sont sans doute éliminés après avoir livré leur meilleur match du tournoi, les hommes de Michel Dussuyer. Mais les Sénégalais, eux, continuent à jouer à leur main. On les trouve pas forcément emballants, mais c'est efficace, c'est réaliste. Ils font ce qu'il faut à chaque fois. Ils en sont maintenant à une défaite lors de leurs 11 derniers matchs. C'était la semaine dernière face à l'Algérie, 1-0. mot. Tout le monde ici voit les Sénégalais retrouver les Algériens en finale. On n'en est pas encore là. En tout cas, ils sont efficaces. Les Béninois auraient pu ouvrir le score. Les Sénégalais auraient pu marquer 2 ou 3 buts. On a eu une première mi-temps un petit peu fermée, mais pas désagréable pour autant. Et on a eu une deuxième mi-temps vraiment, vraiment emballante. C'est une qualification méritée. Il n'y a rien à dire là-dessus.
Franck Simon, vous êtes d'accord avec Olivier Pron, qu'on voit en photo sur notre Facebook Live,
parce que super.
Maintenant qu'on identifie les gens visuellement parfois.
C'est vrai que comment les Sénégalais donnent cette impression depuis le début de maîtriser. Je mettrai de côté leur prestation contre l'Algérie, mais ils maîtrisent quand même leur sujet. Ils ont eu les occasions en première période. Il y a eu encore un grand Saturnin à Lagbé. On en parlait il y a quelques jours avec Rémi.
Le gardien du Bénin.
Voilà, le gardien du Bénin. Il a été encore très, très bon. La défense a bien résisté. Mais le jeu, la domination était sénégalaise. Il n'y arrivait pas. Mais c'est ce qu'on a entendu dans les propos d'Henri Sévet. Il a fallu être patient. Ils ont su s'armer de patience. Et à un moment donné, en fait, valider.
Ça paye.
Ouais, ça a fini par payer, mais avec un valeureux Bénin, quoi. En fait, c'est ça qui est. Je reviens sur les propos d'Olivier. Voilà, c'est tout le paradoxe. On a eu droit à un beau Bénin, mais on a eu un Sénégal de très 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 réaliste.
Freddy Koula.
Ils sont à peu près sur les traces de la comparaison est belle avec ce qui s'est passé en 2006, notamment la dernière fois qu'ils avaient marqué 7 buts dans un tournoi, c'était en 2006, et c'est normal que la comparaison soit faite. Et d'ailleurs, c'est la première fois que le Sénégal enchaîne 3 victoires dans une compétition de toute l'histoire, de toute son histoire en Coupe d'Afrique des Nations. Ça prouve qu'il y a un nouvel état d'esprit dans cette équipe-là. Et d'ailleurs, les critiques sont légion depuis le début. Ça fait déjà 3-4 ans qu'on dit que cette équipe-là ne joue pas bien, que cette équipe-là ne produit pas du jeu, notamment les critiques qui sont assez acerbes vis-à-vis de l'entraîneur. Mais on a l'impression qu'il y a un supplément d'âme qui fait qu'aujourd'hui ils sont comme des guerriers, ils savent où ils vont, et d'ailleurs de plus en plus de ceux qui les critiquaient disent aujourd'hui on s'en fiche de comment vous allez jouer, on s'affiche du beau jeu, le plus important c'est l'objectif, et clairement l'objectif il est en train d'être atteint avec cette demi-finale.
Mais on l'a bien entendu aussi dans la voix d'Henri Sévet, ils veulent s'affranchir du passé et des autres générations, parce qu'ils veulent aussi creuser leur sillon et qu'on les compare pas trop. Rémi Ngono, bonsoir.
Bonsoir Annie.
Rémi, racontez-nous, vous, quel est votre regard sur cette équipe du Sénégal qui avance petit à petit, hein, comme nous dit Henri Sévet.
C'est bien quand on gagne, mais il ne faut pas toujours se mettre à féliciter ceux qui ont gagné et dire que c'est la première fois. Moi, je peux vous rappeler à mon confrère que quand il veut me parler des victoires d'affilée, lorsque vous regardez par exemple cette équipe du Sénégal de 86 avec Jules Bokandé, qui fait justement une CAN, c'était en Égypte, ils ont été meilleurs que ce Sénégal que je suis en train de voir là actuellement. Le problème avec ce Sénégal, c'est quoi? C'est que lorsqu'ils ont affaire à
l'impact... Ils ont été meilleurs, ils n'ont rien gagné.
Ah oui, mais ils sont allés plus loin encore. Ils ont atteint les demi. Il ne faut pas dire que c'est la première fois.
Non, il n'a pas dit que c'était la première fois.
Il a dit que c'est la première fois depuis 2006.
Voilà. Donc si c'est depuis 2006, il faut aussi savoir. Et lorsque moi je regarde d'ailleurs des générations, je peux vous dire que même lorsque le Sénégal ne participe pas à la CAN en 2010, et ils se reconstruisent en 2011, c'est là où j'ai encore vu un très très beau Sénégal où il y avait bien évidemment les sauts,
il y avait Niang, des
consorts qui mettaient les 7-0 à des équipes. Mais maintenant, cette équipe du Sénégal, je peux bien vous dire que le match aurait pu changer. À la 25e minute, lorsque Poté, sur un coup franc, dévie la balle qui ricoche carrément, qui passe à 2 cm du poteau. Ça aurait pu changer. Si jamais ce but, bon, peut-être parce que on peut dire que l'arbitre avait sifflé avant, s'il marquait. Mais retenez qu'à la première mi-temps, l'équipe du Sénégal n'a pas eu les tirs. Donc, à la deuxième mi-temps, et comment est-ce que le Sénégal réussit à déstabiliser l'équipe du Bénin? C'est lorsque on enlève Almeida, juste au niveau du milieu de terrain, qui était en train de jouer la voûte, au niveau de la défense, on fait entrer Mama. Une minute après, directement, il y avait le boulevard, et il y avait une certaine aisance. Mais cependant, il faut reconnaître que l'équipe du Sénégal a un super bon banc. C'est surtout ça qui est une qualité, parce que lorsque vous voyez, par exemple, Diata entrer, et comment est-ce qu'il peut percuter, lorsque vous savez que Salif Sané n'a même pas joué, et vous regardez que lorsque ces gens-là peuvent être alignés tous ensemble, ça fait très mal.
Juste pour enchérir, pour dire que souvent on tape sur Aliou Cissé, mais dans ce match-là, je l'ai trouvé remarquable, notamment dans le changement de dispositif. Il a fait rentrer Diatta, il a mis de côté Keita Baldé, il est passé en 4-4-2, et avec Mané devant et Diagne, ça changeait complètement la physionomie du match.
Olivier ?
Oui, je suis là, Annie.
Oui, je vous entendais vouloir intervenir.
Oui. La première chose, c'est qu'il y a aussi une finale, hein, on l'oublie, c'était en 2002 et c'est le Cameroun qui avait battu le Sénégal d'Habib Bey. On lui fait coucou au passage parce qu'on a beaucoup pensé à lui et on pense beaucoup à lui.
Il était très tendu avant le match, hein, dans la première partie de Radio Foot International. Je peux vous dire qu'il était
On a échangé pendant le match, je peux vous dire aussi, et il était beaucoup plus détendu. Donc il y a eu une finale en 2002, mais moi, contrairement à Rémy Nguno, je ne suis pas un homme du passé. Et je pense qu'il faut rendre hommage effectivement à cette équipe, à cette génération et surtout à cet entraîneur. On avait deux entraîneurs très attachants dans leur genre ce soir. On reparlera plus tard de Michel Dussuyer, mais Aliou Cissé semble aller où il va. C'est vrai que cette équipe, elle n'est pas en ballante, mais au football, on demande toujours combien, on demande rarement comment et combien. Ça fait une demi-finale. C'est la première depuis 2006. On les a attendus tellement longtemps. Tellement souvent. Enfin, ils sont présents dans le dernier carré et c'est l'occasion aussi de rendre hommage à Aliou Cissé. On lui a laissé le temps de travailler. Ça fait 4 ans qu'il est là et ça, c'est aussi important. Il est très calme. Il semble à peu près savoir, même complètement savoir ce qu'il veut. Je suis allé assister à la conférence de presse d'après-match. Très calme, très posé. Ils sont en mission. Ils veulent aller plus loin, les Sénégalais. Et c'est tout le mal qu'on leur souhaite, même si l'adversaire qu'ils auront, Madagascar ou la Tunisie, sera aussi un vaillant adversaire, mais voilà, la voie est quand même plutôt intéressante pour eux.
Oui, on se souvient de l'élimination en quart de finale la dernière fois au Gabon contre le Cameroun et c'était au tir au but et ça avait été un peu le ciel qui tombait sur la tête des Sénégalais. En tout cas, Idrissa Gueye, le buteur du soir, souvenez-vous, il y a quelques semaines, il était notre invité dans Radio Foot International et souvenez-vous ce qu'il disait autour justement des rêves et de la mission que supporte ou que porte cette équipe du Sénégal, Idrissa Gueye, donc dans Radio Foot il y a quelques semaines.
Le but d'Idrissa Gueye pour le Sénégal après 70 minutes de jeu ici au stade du 30 juin. Essentiel est fait avec ce premier but d'Idrissa Gueye dans cette CAN.
Bien sûr qu'il y a des rêves. Souvent, on est frustré de sortir en premier tour et en quart de finale la dernière fois. Donc, on a plutôt envie de bien faire, plutôt envie de changer les choses, surtout pour l'histoire du Sénégal, parce qu'on n'a toujours pas gagné la CAN. Donc, c'est un objectif pour nous et on espère qu'on l'atteindra. On fera tout ce qu'il faut, en tout cas, pour aller le plus loin possible.
13 ans qu'on n'avait plus vu les Lions dans le dernier carré d'une phase finale de CAN.
Voilà, Idrissa Gueye, le buteur en plus de la soirée. Alors, on rêve d'aller très loin, Franck, et il en est l'acteur ce soir. Et
ouais, c'est un super symbole. Moi, je suis très content parce qu'il joue dans un club qui, évidemment,
Everton, voilà, en Angleterre, n'est-ce pas ?
Personne ne l'ignore plus maintenant. Mais voilà, il est très symbolique parce que c'est la nouvelle génération. Parce que, voilà.
Parce que quand il était absent au deuxième match, on a bien vu qu'il manquait quelque chose sur le terrain.
C'est une des pièces maîtresses. Il y a un très bel.
C'est même la pièce maîtresse de l'équilibre de l'équipe. Mais je pense que quand il n'est pas là, ça change tout.
Tu as raison. Et c'est vrai qu'il y a eu ce bel enchaînement aussi avec Sadio Mané, très très rapide, qui a fini par piéger cette équipe du Bénin. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il représente, ce qu'il incarne pour cette équipe. Effectivement, il incarne vraiment l'avenir, un joli présent et puis un bel avenir. L'avenir, c'est effectivement d'aller chercher ce premier titre. Mais il fallait le marquer, ce but. Franchement, il n'y a pas eu beaucoup de tirs cadrés. Et le sien est superbe.
Olivier, il y a eu quand même deux faits dans ce match. C'était ces deux buts refusés au Sénégal. Par deux fois, la VAR a été contre les Lions de la Teranga.
Oui, alors nous, on n'a pas vu beaucoup de ralentis sur le but de Sadio Mané qui aurait pu faire 2-0. Il nous avait semblé que Crépin Diatta était peut-être hors jeu, ça net, mais il ne touche pas la balle et il est à l'autre bout du terrain, assez loin. Ça n'a pas dû se jouer à grand-chose. Le seul ralenti qu'on ait vu était peut-être pas dans le bon axe. On a été étonnés. On pensait franchement aux commentaires qu'avec la VAR, eh bien, on accorderait ce deuxième but. En début de deuxième période, ils ont vraiment vraiment souffert les Sénégalais, hein, parce qu'en première période, ça a joué, mais il y a une occasion de chaque côté et rien de plus. C'est la première occasion sénégalaise, c'est vraiment dans les arrêts de jeu avec plusieurs frappes contrées. En revanche, en deuxième période, on a d'abord vu le Bénin et ensuite, il y a eu une déferlante sénégalaise, c'est vrai, avec des sauvetages sur leur ligne des Béninois, ce but. Et puis, donc, ce but refusé à Sadio Mané, bah, il est quand même pas mal, quoi, hein, par rapport à tous les grands joueurs qu'on attendait sur cette CAN. Il a des gestes, il a des fulgurances et il a quand même 3 buts, 2 pénalties ratés, 1 passe décisive. Il est à la hauteur quand même, hein, je crois qu'on peut, le dire.
Ah oui, d'ailleurs, on pensait nous aussi, avant de voir X fois les ralentis sur la télévision, que ce but était valable. En tout cas, vous évoquiez le Bénin, évidemment, le Bénin, pour eux, la belle aventure s'arrête. 4e CAN et pour la première fois un quart de finale. Mais malgré l'exploit, eh bien, ces Béninois ne sont pas trop tristes et ils sont notamment heureux d'avoir été dans le sillage de leur sélectionneur Michel Dussuyer. C'est ce qu'a dit tout à l'heure Stéphane Sessegnon à votre micro justement, Olivier.
On a la chance d'avoir un entraîneur qui est proche de nous, qui ne donne pas trop de la voix, je dirais, mais qui est rigoureux dans son travail, qui est aussi proche de nous, et ça nous permet de nous rassurer, nous les joueurs. Il est dans la même vision que nous, et ça, c'est une chose importante pour un entraîneur qui arrive à avoir une certaine complicité avec les joueurs, et c'est ce qui nous apporte, c'est ce coucher-là. Nous sommes, comme on l'avait dit, prêts à aller à la guerre avec lui, parce qu'on sait qu'il est à 200% dans tout ce qu'il fait avec nous, et c'est ça, c'est vraiment important.
Quelle aventure vous avez vécue? Vous avez montré une tellement belle image du Bénin.
Oui, c'était l'objectif premier. Surtout arrivé ici avec, pas beaucoup d'ambition, parce que c'était trop être prétentieux, mais être vraiment reparti d'ici, la tête haute, avec beaucoup de fierté. Et je pense qu'on l'a démontré, et c'est ça le plus important.
Oui, c'est ça le plus important, c'est ils sortent la tête haute, c'est ce que vous diriez, Olivier?
Oh bah oui, parce qu'ils sont attachants, moi j'ai vraiment une affection toute particulière pour Michel Dussuyer, je pense qu'il était vraiment l'homme de la situation, il avait commencé ce travail lors de son premier passage. C'est rigolo le parcours de Michel Dussuyer en Afrique depuis 17 ans, Guinée, Côte d'Ivoire, Bénin, et ensuite, hop, rebelote, Guinée, Côte d'Ivoire et Bénin. Il avait commencé entre 2008 et 2010 à travailler avec cette sélection, et puis comme il l'a expliqué, lui il serait bien resté, mais à l'époque on n'avait pas voulu, et puis on est venu le chercher, mais on a fini par le trouver libre. Et en 18 mois, il a fait du bon boulot. Il n'y a pas un joueur qui nous ait pas dit du bien de lui. Vraiment, il l'appelle papa, il considère que c'est une famille. Ils sont vraiment prêts à adhérer. Ils adorent ses causeries. Ils trouvent que ça les galvanise. C'est ce que nous disait Steve Mounier. Et c'est quand même un personnage comme Stéphane Sessegnon dans cette équipe. Donc oui, ils peuvent sortir la tête haute. Certains objecteront qu'ils n'ont toujours pas gagné un match en phase finale de CAN. Ça fait 14 maintenant, 9 défaites et 5 nuls. Mais là encore, on ne demande pas comment. On demande combien et combien c'est un quart de finale. Et ça compte très très fort. Et ils étaient un peu déçus, mais ils vont aller faire la fête. Et à Cotonou, on va les accueillir en héros. Et c'est bien mérité. Et je suis sûr que Michel Dussuyer trouvera sa place.
Oui, c'est ce que leur avait promis le président Talon à la sortie du match, en disant, quel que soit le résultat, on vous accueillera bien. Rémi, ces Béninois qui ont terminé, rappelons-le, le match à 10, hein, parce que Olivier Verdon a été à un moment exclu du match, sur à peu près au milieu de la deuxième mi-temps. Vous les avez trouvés, comment les avez-vous trouvés? C'est vrai qu'ils n'ont pas gagné un seul match, mais on a vu quand même une équipe très soudée et surtout très vaillante sur le terrain.
Ah, mais ils n'ont pas gagné, mais en même temps, ils se sont qualifiés. Oui, dans une poule, il y avait
dans un
le
tournoi,
Ghana,
c'est important.
Le Cameroun, et qui est-ce qu'on voit? Tout ce monde qu'on attendait comme des stars, c'est des écureuils. Donc, c'est les écureuils. Mais, donc, rien que ça, on devrait déjà féliciter le Bénin, parce que si un écureuil se met quand même devant un lion, c'est qu'il y a un problème, c'est que le lion est déjà mort.
Ils ont croqué des lions, donc, deux.
Il y avait quand même cette qualité-là. Donc, et savoir aussi qu'ils ont quand même perdu au niveau de la charnière à Denon, qui était le joueur le plus expérimenté, et surtout savoir que ils n'ont pas, contrairement à ce qu'on dit, ils n'ont pas fait le catenaccio. Ils jouaient souvent avec 5 défenseurs, ils ont joué avec 4 défenseurs aujourd'hui.
Et ce match-là, il était un peu contraint parce qu'Adenon n'était pas...
Ils étaient vraiment à 4 derrière. Et j'ai vu qu'ils étaient capables de créer des problèmes à la défense ivoirienne, qui prenait vraiment parfois...
Sénégalaise.
Sénégalaise. Et qui prenait parfois le jeu à leur compte. Pour moi, ce que j'ai vu, et surtout Dussuyer, avec ses joueurs, que presque personne ne connaissait, un Sessegnon qui était presque déjà mort et qui est ressuscité, Voilà le genre de sélectionneur européen français qu'on veut. Et non, par exemple, les sortes de vagabonds qu'on voit, par exemple, au Cameroun, que quelqu'un vient, il habite Paris, il repart, il vous ramasse les joueurs de n'importe comment, il les aligne n'importe
c'est
comment.
C'est pas un français en ce moment, hein.
De, j'ai dit bien, du Suillet.
Tu parles des Néerlandais, là?
J'ai dit bien, du Suillet, de par la façon qu'il a eu à travailler. Vous voyez que tous les joueurs sénégalais le respectent. Vous voyez qu'il y a une mise en place tactique.
Béninois.
Vous voyez, béninoise. Vous voyez qu'il y a une mise en place tactique. Vous voyez que tout joueur connaît son rôle. Et à partir de cet instant, j'ai dit, l'équipe qui a été la plus cohérente dans ce groupe où il y avait les Lions Indomptables et le Ghana, j'ai dit bien, c'était
l'Open. C'est vrai, ils l'ont montré depuis les éliminatoires, d'ailleurs, Dani. C'est pas un hasard s'ils en sont là, parce que même pendant les éliminatoires, ça fait impressionner. Moi, le match notamment que j'ai suivi avec beaucoup d'attention, c'est le dernier match contre le Togo. J'avais trouvé que cette équipe-là avait de la cohésion. Et d'ailleurs, du Suyé, déjà, même en conférence de presse que j'avais suivi, savait déjà à peu près ce qu'il fallait faire dans ce match. Et comme il l'a dit d'ailleurs avant ce match-là, ils ont déjà gagné le cœur des gens. Ils ont déjà gagné, réussi leur CAN parce qu'ils ont réussi ce que personne n'avait jamais réussi avant, avec les moyens qu'ils avaient.
La nationalité béninoise.
Évidemment, ils se sont battus avec leurs moyens. Il y avait quelques joueurs comme Cessegnon qui n'avaient plus le grand jambe. Ils ont réussi à sortir ce qu'ils ont eu comme exploit. Moi, je trouve que la joie qu'ils ont procurée aux Béninois, personne ne va le leur enlever.
Pas seulement
moi,
je me souviens, Béninois, voilà, à tout le football africain, quoi. Surtout. Non, mais ces pays qu'on négligeait souvent, que ce soit le Bénin ou Madagascar, j'ai dit bien que le Bénin nous a apporté quelque chose que moi, je sursautais quand ils étaient en train
c'est
de jouer.
Le nombre de Béninois qui te disent que jamais dans leur vie, ils n'ont vécu cette chose aussi grandiose. C'est-à-dire que c'était pour beaucoup, pour ceux qui ont à peu près 30-40 ans, la plus belle chose qui leur soit arrivée dans la vie au Bénin. C'est incroyable, quoi.
Franck ?
Il y a quand même 3 minutes où le destin du Bénin se joue. Puisqu'à la 66e minute, si vous vous souvenez, il y a une passe en retrait du Sénégalais Sabali pour son gardien.
Ah oui,
le gardien qui s'est planté, Gomis. Qui déchire, et Gomis, et qui est pas loin de mettre un
but. Ça a bien fait au Vaudou à ce moment-là.
Dans la foulée, il y a la sortie de Ceci d'Almeida. Et j'aurais bien aimé entendre Michel Lussier. Alors, je souscris tout à fait aux propos d'Olivier Pron par rapport à ce que représente Michel, l'homme et le technicien. Mais j'aurais bien voulu l'entendre sur ce changement qui, je pense, a tout déstabilisé. Et puis derrière, 69e, ce but incroyable.
C'est ce que j'ai dit. Il le remplace avec Mama. Ouais. Mama qui ne se positionne pas. C'est justement là. Et c'est là où tout est parti. C'est devenu...
C'est juste au moment du changement qu'il y a le but. C'est juste au moment du changement qu'il y a le but.
Juste une minute. 55 secondes exactement.
Mais ça se joue, ça bascule en 3 minutes. C'est fou comment un destin peut basculer. Et jusque-là, les écureuils avaient vraiment fait belle figure.
Parce que le milieu de terrain avait bien tenu entre Dalmeida, Deoti et Cessegnon. Au milieu, ils avaient réussi à contrecarrer les Sénégalais jusque-là.
Olivier, donc, vous ne rentrez pas en France, vous rentrez directement sur le Bénin, j'ai bien compris.
J'ai bien compris qu'avec Rémy Ngono, on va acheter un terrain tous les deux, on va faire construire.
Oh là là,
j'adore ce pays que je connais bien depuis longtemps. Je lui laisserai une petite place, peut-être gardien.
Si vous nous autorisez, on viendra enregistrer des radios foot avec vous.
Mais je vous invite évidemment avec toute l'équipe. Non, mais c'est vrai qu'elle était sympa à voir. Ça a été un plaisir de travailler avec cette équipe. Frédéric Suto, qui les avait à Ismaïlia, même l'attaché de presse, vraiment d'une simplicité extrême. Nos confrères de TV5 sont allés les voir encore hier après-midi dans leur hôtel. Et comme quoi, quand on ouvre aux journalistes, qu'on est abordable, eh ben on peut aller en quart de finale de CAN. Je pense qu'il y a beaucoup de sélectionneurs et je connais beaucoup de sélections qui pourraient en prendre de la graine. Chapeau au Bénin qui a sans doute fait son meilleur match de la CAN ce soir et qui est tombé juste sur une équipe très forte. Oui, Barazé, Dalmeida qui joue en 4e division en Angleterre. Cessi Dalmeida, ces gars-là ont fait vraiment un super boulot. On pourrait tous les citer tellement ils ont été vaillants.
Merci beaucoup Olivier Pron d'avoir été en direct avec nous dans Radio Foot International et on vous retrouvera évidemment ces prochaines heures pour commenter un autre match, n'est-ce pas?
Oui, Madagascar-Tunisie avec celui qui fait construire à Tana, hein, Hugo Moissonnier.
Et bien sûr. Merci beaucoup, Olivier. À plus tard.
Je vous en prie.
Le centre. Oui. Et le but. Et l'ouverture du score. Et Nigérian Chukwueze en deux temps qui s'est infiltré dans la surface sud-africaine. À l'entrée de la surface de réparation, c'est pas mal frappé, déviation, la reprise, et le but, l'égalisation dans le corner, c'est trop court de William, c'est Kong qui surgit derrière pour donner l'avantage aux Super Eagles à quelques minutes de la fin.
Le Nigeria retrouve son rang, absent ces derniers temps hein, des Cannes, on s'en souvient, c'était un grand absent qui avait du mal à revenir dans la compétition continentale. Après l'avoir gagné en 2013, il y avait eu des absences notables, on va dire, n'est-ce pas Franck?
Oui, en 2013 et en Afrique du Sud.
Exactement.
Sous feu Stéphane Keshi.
Ouais. Voilà. Et 2013 et puis 2015 quand ils avaient... 2013 quand ils avaient remporté la compétition. Les voilà donc dans le dernier carré, comme on dit. Ils sont eux aussi demi-finalistes face à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, peut-être Franck, je ne sais pas, on peut dire qu'elle a eu peut-être du mal à retrouver la performance qu'elle avait faite contre l'Égypte en éliminant l'Égypte ce soir.
Bah maintenant qu'on a vu le match, en fait, et cette défaite on peut se dire que c'était un one-shot. C'est-à-dire qu'ils ont réussi ça une fois, ils ont sorti un match exceptionnel. Mais aujourd'hui, c'était vraiment pas le, il y avait pas le même contenu.
Ouais.
Ils étaient vraiment perdus. Leur égalisation, alors ils vont la chercher, mais c'est sur coup de pied arrêté. On s'en remet au coup de pied arrêté quand faute de mieux finalement. Mais le Nigeria avait les occasions. Il n'empêche, le Nigeria marque ce but décisif, hein, 89e,
oui, voilà.
Et sur plusieurs erreurs,
il n'y a pas de prolongation, il n'y a rien.
Voilà, mais ouais. Il marque sur une sortie ratée du gardien, sur un marquage absent. De l'attaquant qui était rentré.
Il marque du tibia d'ailleurs, ouais, hein, le Nigérian.
Le Nigérian, Trostekong, peu importe. Ils sont là, ils ont sorti le champion d'Afrique il y a quelques jours en arrière.
Oui,
ils continuent leur parcours. Souvenons-nous que cette équipe du Nigeria était mondialiste en Russie il y a un an.
Exactement.
Et ils nous avaient laissé plutôt une bonne impression. Quoi. Peut-être moindre que le Sénégal. Mais tout de même, on avait vu des belles choses.
Oui, bah, on se souvient du match contre l'Argentine, hein, notamment de cette équipe du Nigeria. Elle tombe souvent contre l'Argentine en Coupe du Monde,
d'ailleurs.
C'était
pas assez, mais c'était pas assez pour une Coupe du Monde, certes.
Bah, il s'en était fallu de peu.
Rémi, ce Nigeria d'aujourd'hui, c'est Super Eagles.
C'est Super Eagles. Je vais dire tactiquement, ils ont gagné. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on dit que l'Afrique du Sud n'a pas bien joué, le problème, c'est quoi? C'est que l'Afrique du Sud a été totalement anesthésiée au milieu du terrain avec non seulement
Mais ils les ont vu venir, je pense, ils les avaient vus contre
l'Égypte. Didi qui était là, et ça fait de telle sorte qu'il y avait tellement de la pression à la première mi-temps qu'ils ne parvenaient pas à développer le jeu. Vous vous rendez compte quand même?
Ils n'ont pas tiré.
Ils n'ont pas tiré. Ouais. Ouais. Et quand vous regardez la possession, ils ont 66% de possession. Mais ils ne font rien avec la balle. Ouais. Alors que le Nigeria, non seulement... Eux, ils ont su que, en mettant par exemple celui qui devait normalement être le régulateur, leur capitaine, comment est-ce qu'on l'appelle encore, John Obi Mikel, ils ont dit John Obi Mikel va ralentir le jeu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des bons.
Ça fait trois matchs qu'il a compris ça de toute façon.
Et qu'est-ce qu'il y avait sur les côtés? Ils savaient que l'Afrique du Sud avait des problèmes sur les côtés. C'est pour ça qu'on a mis Chikwueze et de Moussa. L'autre côté, Moussa. Ahmed Moussa a créé de sérieux ennuis à cette équipe sud-africaine qui a été totalement déstabilisée. Et les ballons ne pouvaient plus arriver au niveau de ce qu'on peut dire, par exemple, les trois poisons de devant de l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que Lorch, pratiquement, à part une pénétration où il obtient en coup franc, juste à l'entrée des 19 mètres, on ne l'a pas du tout vu du match. On n'a pas vu Tao, on n'a pas vu
Motiba non plus, très peu.
Voilà, donc c'était très difficile tactiquement. Le Nigeria qui avait des difficultés sur le plan défensif avec, par exemple, Trostekong, là, on a constaté que, bien au contraire, ils avaient eu à bien encercler ce côté-là, parce qu'ils savaient que c'était là où l'Afrique du Sud allait pénétrer.
Mais pour bien connaître la méthode...
Freddy, justement, je voulais vous demander ça au sujet autour du Nigeria. Ouais. On sait qu'ils ont déjà gagné trois fois le titre, qu'ils sont toujours un peu mis dans les favoris avant une compétition parce qu'on connaît leur style et leur talent. Est-ce que vous les voyez cette fois-ci aller de mieux en mieux dans la compétition?
La chance qu'ils ont, c'est surtout leur entraîneur. Qui, de mon point de vue, a appris un peu de ses erreurs, même si je pense que la sortie prématurée de Moussa, qui a failli coûter la victoire, on en parlera peut-être à d'autres moments, mais la sortie de Moussa a changé complètement la physionomie. Il a failli faire un peu l'erreur qu'il a faite en 2012 en sortant Cousin quand le Mali avait égalisé à ce moment-là. Il a appris de ses erreurs.
C'est le remplaçant, Moussa qui tire.
Oui, mais il tire. quand Moussa est sorti, ils se sont fait égaliser derrière. Ce qui est sûr, c'est que tactiquement, il a remarquablement joué le coup. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce parce que en parlant de John Obi Mikel, il a compris que cette équipe-là correspondait au style qui va parfaitement à ce Nigeria-là, qui aime prendre la profondeur, qui aime les équipes qui jouent, qui font le jeu, et eux essaient de contrer de temps en temps. Ils étaient dans leur style caractéristique et ils ont la chance d'avoir un Iwobi qui est monté en puissance, et c'est la grande chance de ce Nigeria-là qui, je pense, va faire quelques coups d'éclat, même si aujourd'hui on n'a pas vu Ighalo, je pense qu'il était un peu émoussé.
Oui, Franck ?
Je vais essayer de répondre plus directement à votre question. Je pense qu'effectivement, dès le moment où tu es dans le dernier carré, tu deviens un favori. Le Sénégal ne peut plus se cacher. Le Nigeria, eux, ils ont l'habitude des podiums. Donc, naturellement, ils sont là pour gagner, même s'ils ne le disent pas. Mm-hmm. Mais c'est dans la mentalité des Sapa Eagles et du Nigeria. Et pour corroborer ce que disait Freddy, bah, quand vous avez la chance d'avoir quelqu'un comme Gernot Rohr, qui a un petit peu de vécu sur le continent africain, qui a appris, qui a pu se tromper, qui a pu corriger le tir... Ça donne ce que ça a donné aujourd'hui. Alors, c'est sûr que c'est pas super sexy, hein, comme football, mais c'est efficace. Et puis, ils ont su réagir après cette égalisation sur coup de pied arrêté, parce que, ce que tu disais, Rémi, c'est-à-dire que, en vérité, ils ont pas été embêtés. Jusqu'à ce coup de pied arrêté, ce coup franc.
Ouais.
Où on fait appel au VAR, ils sont pas embêtés.
Et pourquoi? Parce que, quand vous regardez, c'est le match de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il connaissait l'Afrique du Sud par cœur. Rappelez-vous que, l'Afrique du Sud, en ce qui concerne justement les deux derniers matchs, l'Afrique du Sud gagne le Nigeria
2-0.
À domicile 2-0 et puis ils font 1-1. Et d'ailleurs, ils ont totalement laminé le Nigeria. Or, Gernot Rohr s'est dit, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Il a constaté que tout se jouait au niveau du milieu de terrain et que c'est là où il est venu blinder. C'est pour ça que je dis que il a appris des erreurs du passé, c'est bien. Et en même temps aussi, il faut se dire quand même que l'Afrique du Sud, ça ne réussit pas beaucoup au Nigeria. Enfin, le Nigeria est toujours devant l'Afrique du Sud. Quand on essaie de regarder à la CAN, pratiquement l'Afrique du Sud n'a jamais battu le Nigeria. Quand on essaie de regarder sur le nombre de matchs, ça fait quand même sur les 13 rencontres. L'Afrique du Sud n'a gagné que 2 fois.
Là aussi, la VAR est intervenue et elle s'est illustrée dans un autre sens. Puisque...
Pour la première fois de l'histoire, quand même, on a un but qui a été... Qui a été validé grâce à la VAR.
À la CAN, je pense que, oui.
Voilà. Oui, à la Coupe d'Afrique.
Oui. Mais bon, c'est historique quand même.
Oui, assez, mais à l'œil nu, ça ne se voit pas.
Non.
On voit pas du tout que Ighalo touche le ballon du dos.
Effectivement.
Quand ça se joue, c'est quand on a la chance
d'avoir le... Heureusement qu'il y a le VAR, parce que je pense que sur l'action, je pense que l'arbitre, même nous, on avait vu qu'il y avait hors-jeu, parce qu'on a systématiquement vu celui qui mettait le ballon. Or, le ballon a été dévié par Ighalo, et à partir de ce moment, l'attaquant lui a été remis dans le jeu, et donc ça fait but logique.
Mais c'est vrai que ça a donné après un scénario fou, parce que les Super Eagles se sont un petit peu effondrés psychologiquement, ils ont eu du temps, ils ont mis quelques temps à se remettre, et puis les Sud-Africains, ça leur a donné ce petit sursaut alors qu'il n'y avait pas grand-chose.
Et ça a changé tout
à
la fin du match.
Jusqu'à ce corner, cette succession de corners et cette erreur conjuguée et du gardien et de l'attaquant Velvaï qui était rentré pour donner ce but qui vient du stopper. Alors lui, on ne l'a pas vu arriver pour le coup.
Mais Annie, ils sont quand même sacrément costauds les Nigériens, et c'est pourquoi on va toujours louer ce que fait Gernot Rohr. Ils travaillent beaucoup sur le mental. Ils sont revenus face au Cameroun alors qu'ils étaient quasiment au fond du trou. Là aussi, ils ont encaissé un but alors qu'ils pensaient déjà gagner. Ils sont revenus encore une fois. C'est qu'ils sont sacrément forts mentalement. Et ça, c'est la rigueur allemande, franco-allemande de Gernot Rohr.
Et là, voilà la réponse à la question. Ils sont là, les Nigérians. On continue avec les matchs de demain, parce que de là sortiront les adversaires de ces deux équipes qualifiées. Les matchs de demain, vous pouvez nous écouter ce soir et nous regarder, ne l'oubliez pas, à travers le Facebook Live, en tout cas si vous avez envie de profiter du spectacle que nous offrons ici dans notre studio à Paris pour évoquer la CAN. Demain, il y aura donc ce Côte d'Ivoire-Algérie et de là sortira l'adversaire du Nigeria. C'est le choc, évidemment, le choc entre la Côte d'Ivoire, des éléphants, je sais pas, on va peut-être dire qu'ils ont plutôt déçu depuis le début de la compétition, même si eux aussi avancent sans aucun problème. Et puis des Fennecs qui, eux, sont arrivés peut-être un peu discrètement et tout d'un coup deviennent des favoris. Alors jusqu'où iront ces favoris? C'est la question qu'on se pose. Rémi, la Côte d'Ivoire, les éléphants, pas impressionnant mais toujours là. En attendez-vous demain un sursaut, quelque chose de mieux face aux Fennecs?
Non.
Bon,
je ne m'attends pas. Non, c'est simple parce que, honnêtement, lorsque j'ai vu le match de la Côte d'Ivoire contre le Mali et que je me rends compte que la Côte d'Ivoire a concédé 18 tirs, 8 corners, et que la Côte d'Ivoire n'a cadré que deux fois et s'en sort. Durant tout le match, la Côte d'Ivoire a fait 282 passes. C'est archi pauvre. Franchement, j'aime souvent la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire avait une grande génération avec, bien évidemment, les Drogba qui n'ont pas gagné à l'époque.
Yaya Touré et tout
avec, Gervinho, avec les Yaya Touré. Mais en 2015, lorsqu'ils gagnent, vous sentez au moins une mise en place tactique. Vous sentez quelque chose de solide.
Après, mais, il y avait des vrais relais quand même dans cette équipe-là. Les anciens, mais, ça bossait quand même à l'intérieur.
Mais là, indépendamment actuellement, du coach. Le problème, c'est que sur le plan tactique, qu'est-ce que tu vois?
Il n'y a pas grand-chose.
C'est le rien absolu. Bah, c'est le néant. Nous sommes dans le tunnel. Parce que je ne sais pas où va la Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas le système de jeu. Et quand je vois leur sélectionneur, je me dis, mon Dieu, ce n'est pas le Cameroun qui a le dernier entraîneur seulement. Il est presque dans la même catégorie. Or, quand je vois l'équipe d'Algérie qui peut être dangereuse sur tous les plans, c'est-à-dire que sur le plan défensif, c'est une équipe qui n'encaisse pas. Sur le plan offensif, c'est une équipe qui a marqué 9 buts. Sur le plan...
Et ils ont gagné, eux, ils n'ont que des victoires pour l'instant.
Voilà. Et quand je regarde leur organisation tactique, ce serait très difficile que la Côte d'Ivoire s'en sorte.
Oui, mais ce sont vraiment deux styles complètement opposés, surtout deux organisations opposées. Avec d'un côté un entraîneur qui maîtrise parfaitement son effectif Belmadi, que d'ailleurs pas mal de gens, même si on s'enflamme un peu, on le compare à Guardiola parce qu'il est très très méticuleux. Mais ce qui est sûr, c'est que côté Côte d'Ivoire, mais c'est un
désordre. Guardiola, c'est pas le c'est qui t'accale là-bas.
C'est le football direct, mais il fait attention à plein de détails.
Ne parlez pas de Guardiola, Rémi, s'il vous plaît, ce soir.
Ce qui est certain, c'est que cette équipe de Côte d'Ivoire là, malheureusement, elle a une pléthore de talents, mais le banc de touche, quand tu gagnes au change, quand tu sors Gradel et que tu remets Cornet et que tu remets Zaha quand il était sur le banc de touche, et il y a Pépé qui jusque là n'a pas montré grand chose, tu as l'impression que du point de vue du talent, c'est équivalent ou peut-être meilleur que l'Algérie, mais il n'y a pas d'organisation côté Côte d'Ivoire, et c'est ça qui fait peur, c'est que ça joue au freestyle. On dirait qu'on est dans les rues d'Abobo ou peut-être les rues d'Abidjan en train de jouer sur la terre rouge, quoi.
Allez, Franck.
Franck Ivoirien.
Oui, j'assume et j'embrasse toute ma petite famille d'ailleurs du côté d'Angré, puisque vous me tendez la perche.
Bien sûr.
Voilà, je leur fais des gros bisous. Mais non, franchement, ça paraît disproportionné. Il y a une Algérie qui domine son sujet, qui est séduisante et on est tous d'accord pour
on,
le...
On voit notamment, par exemple, des stars, on parle des stars et Sadio Mané était là aujourd'hui, on l'a vu briller, mais Riyad Mahrez, c'est pareil.
Mais pas seulement.
Non,
vous avez raison.
Mais il y a des gens qu'on attend comme ça et lui, il est là.
Mais moi, ce qui me plaît, c'est que vous avez prononcé un mot, star. Mais dans cette équipe, il n'y a pas de star. Parce que la star, c'est l'équipe elle-même, en fait. Ouais. Ils se complètent bien. Mmh. Ils sont proches les uns des autres.
Non, mais les stars en Angleterre, c'est surtout ça.
Voilà. Et alors que vous soyez remplaçant ou dans le 11 ou le 11 type.
Surtout l'avant-centre qui ne marque même pas. C'est lui qui a le plus grand travail, hein, Boumedia. Et puis
vous regardez les Bougouli qui reviennent là.
Grande générosité. Donc pour moi, entre cette équipe qui nous a tous séduits au premier tour, qui a fait une démonstration de force contre la Guinée, et puis cette équipe de Côte d'Ivoire que j'apprécie, mais que je trouve effectivement super limitée, dont je comprends pas tout non plus dans son expression quand elle s'exprime, une équipe qui a été totalement dominée par le Mali, et ça ressemble à un hold-up, et tout le monde le dit à Abidjan.
Bah, c'est
un hold-up. Voilà, donc à un moment donné...
Un peu partout, même sur le site de RFI, africfoot.fr.
Il ne faut pas se voiler la face.
Qu'il faut visiter, d'ailleurs.
Les jeunes aigles du Mali ont fait une très belle prestation. Ils se sont inclinés sur un but. Maintenant, c'est une autre histoire, c'est une autre limonade. Vous avez une Algérie qui est sûre de ses forces, et puis elle, peut-être qu'elle fera plus que les 18 tirs que mentionnait Rémi, et peut-être que dans les 18 tirs, elle va en rentrer 3 ou 4.
Après, Franck, moi, pour ne pas...
Il y a une efficacité qu'il n'y a pas chez les
Ivoiriens. Tu es le premier à me dire souvent que les matchs ne se ressemblent pas, pour prendre un peu le parti des Ivoiriens. Là où ça peut jouer, c'est au niveau du caractère. Jusque-là, du point de vue caractériel, les Algériens n'ont pas encore croisé une équipe qui leur impose un impact physique. Ils avaient réussi à gagner le duel physique.
Face au Sénégal.
Ils avaient réussi à gagner le Sénégal, mais est-ce que les Ivoiriens, avec leur caractère, l'envie, ils peuvent se surpasser dans ce match-là? Ça peut toujours se faire.
Il y a Serge Aurier qui revient, qui a priori. Il s'est entraîné aujourd'hui. C'est le capitaine.
Oui, on le voyait donc, à Rongué, hein, ses camarades du banc l'autre fois.
Donc
et
là,
ça peut...
il est en principe de retour.
Ça ne veut rien dire.
Non, mais Rémi a raison.
Ils savent qu'ils n'ont pas bien joué. Mais donc
c'est un petit plus moral, je pense.
En tout cas, vous nous mettez l'eau à la bouche, messieurs, et ça sera le premier quart de finale de la journée de demain, retransmis évidemment sur RFI. Et puis l'autre, c'est Madagascar-Tunisie. Alors évidemment, évidemment la Tunisie, les Aigles de Carthage, ils sont passés assez difficilement, mais ils sont passés peut-être aussi à l'expérience et grâce, on s'en souvient, à ce coup de coaching qui a été celui d'Alain Giresse. Mais pour ce qui est de Madagascar, évidemment, l'équipe première participation et un quart de finale, c'est le rêve et il peut continuer. En tout cas, c'est ce que pense Nicolas Dupuis, le sélectionneur des Malgaches.
Qu'est-ce qu'on aimerait, nous, Madagascar, être 25e FIFA? On serait content et fier. Je dis simplement que c'est une équipe qui joue au football et que j'aime bien les équipes qui jouent au football. On reste outsider parce que ça nous va bien en plus et c'est la réalité. Et c'est la réalité. Moi, mes joueurs ont fait des exploits. On gagne notre premier point contre la Guinée, on a fait la fête. On gagne notre premier exploit contre le Nigeria, c'est pas rien. On gagne notre possibilité d'aller en quart et d'avoir la fierté de jouer contre une grande équipe de Tunisie, c'est pas rien non plus. À un moment ou à un autre, ça s'arrête, mais on reste outsider. Déjà, nous, on a gagné notre CAN. Mes joueurs ont gagné leur CAN parce qu'ils ont été grands et ils sont très grands. Voilà.
Voilà, il est très grand aussi, Nicolas Dupuis, parce que c'est vrai, Franck, que c'est quand même une histoire absolument incroyable que celle de.
On a malheureusement pas le temps de revenir sur leur épopée, mais ce qu'ils nous ont
proposé. Non, mais on l'a raconté tous les jours sur RFI, vous inquiétez pas.
Repartir, si vous voulez, en arrière. Mais ce qu'ils ont écrit pendant cette compétition, c'est sympa et c'est beau et c'est ce qu'on aime dans le sport, en fait, l'aventure humaine. Et n'oublions pas qu'eux, ils viennent des tours préliminaires.
Exactement. Ce n'est
pas le cas de tout le monde.
Oui, c'est intéressant. Donc, bravo. C'est intéressant ce qu'il dit d'ailleurs par rapport au classement. Parce que quand on anticipe sur les prochains tirages au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde, il faut déjà, après cette CAN, qu'ils remontent peut-être à la 25e pour espérer ne pas faire les barrages. Mm-hmm. Et de deux, aujourd'hui, on sait désormais, grâce à cette CAN-là, que Madagascar, ce n'est pas seulement un film, que Madagascar, ce ne sont pas seulement les enlèvements, les crimes. Parce que si vous tapez sur Google Madagascar, généralement, vous voyez, oui, il y a quelques semaines, les crimes, les enlèvements, etc., la pauvreté. Aujourd'hui, on a Madagascar comme une équipe qui a donné du bonheur, de l'envie et surtout qui a suscité un intérêt incroyable dans son pays. Et bravo.
Mais on s'en aperçoit d'ailleurs, je veux dire, au Bénin, il y avait des ambiances absolument fortes. Les gens étaient dans une attente, c'était la fête. Ce soir, c'est la fête au Sénégal. Et là, c'est pareil, il y a cette union autour de l'équipe.
Annie, c'est beaucoup plus fort, je pense, à Madagascar.
Parce que c'est
une des équipes d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, ils sont arrivés à la CAN en faisant une collecte pour pouvoir venir à cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils reçoivent l'équivalent de 100 000 francs CFA de primes de rassemblement lorsqu'ils étaient en début. Ils sont extrêmement pauvres, les populations sont pauvres et chaque victoire est vécue comme une sorte de richesse pour chacun.
Et il y avait incroyable, à peu près 500 personnes qui étaient venues les encourager pour le match précédent.
On attend le double ou le triple, il y a d'autres avions attendus
pour ce
match.
C'est absolument incroyable. Rémi, ces Barea, vous les voyez aller dans le dernier carré africain jusqu'en demi-finale?
Ils sont favoris pour moi.
Alors, je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on retire la coupe, la CAN, l'organisation de la CAN. Au Cameroun, il y a des débats qui se passent à la télé. Les grands universitaires, les grands analystes de football viennent là, parmi lesquels un de mes cousins. Salut, professeur Martial Eric Owonangini. Il déclare que même pour une CAN à 24 équipes, Madagascar ne pourrait pas être qualifié.
Ah, il a dit ça.
Donc, oui, ils l'ont dit.
Et résultat?
Résultat, c'est-à-dire, Madagascar ne devrait même pas aller à la CAN. Madagascar va à la CAN. Madagascar finit premier de son groupe devant le Nigeria. Devant le Nigeria, il faut le dire. Devant le Nigeria, que nous sommes en train de féliciter. Là, c'est Madagascar qui bat Nigeria 2-0. Qui finit devant. Donc aujourd'hui, quand je vois ce que ça entraîne comme le football, je dis très bien que la joie que ça entraîne aujourd'hui au niveau de Madagascar, lorsque je vois le jeune président, je crois qu'il doit être vers la quarantaine d'années, qui vient juste...
L'ancien maire d'Antananarivo en plus.
Oui, qui vient au stade, qui danse. Et qu'est-ce qu'il a déjà dit? Il a dit que, méfiez-vous, c'est Madagascar qui va remporter... La Coupe du Monde.
Oula. Franchement, ils peuvent.
La Coupe d'Afrique des Nations.
Alors. La Coupe du Monde de l'Afrique.
Ah oui, la Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe du Monde d'Afrique, quoi. Non, pour moi, aujourd'hui...
Faisons les choses par étapes.
Ah oui, donc...
Ils peuvent.
Ce Madagascar, aujourd'hui, va progressivement, goutte après goutte, eh bien, on obtient une rivière.
Ah, voilà, j'attendais le proverbe
africain
quand même.
C'est un proverbe de Moabie, hein, mon village.
On verra ça donc demain. Et évidemment, entre ce Madagascar et la Tunisie, sera connu l'adversaire du Sénégal pour la demi-finale. Un petit crochet, les amis, parce que la Coupe du Monde qui se déroulait en France est terminée. Mais on va quand même faire un petit crochet du côté des États-Unis.
We have to be better. We have to love more, hate less. We gotta listen more and talk less. We gotta know that this is everybody's responsibility. Every single person here. Yes, we play sports. Yes, we play soccer. Yes, we're female athletes. But we're so much more than that. You're so much more than that.
Alors je vous traduis, il faut aimer plus et haïr moins, il faut écouter plus et parler moins. Tout le monde doit savoir que c'est la responsabilité de chacun de gagner, de réussir. Alors oui, on joue au foot, oui, nous sommes des joueuses de foot, mais nous sommes plus que ça. Et c'est signé Megan Rapinoe, la charismatique capitaine des championnes du monde de football, qui a pris la parole sur une estrade dans New York. Alors elle avait des lunettes noires, vous pouvez peut-être la voir hein, sur nos images dans le Facebook Live. Elle avait des lunettes noires, un t-shirt noir aussi, exhibant les 4 étoiles brillantes dorées de vainqueur. Et puis toute l'équipe et le staff, juchés sur des camions, ont défilé dans les rues de Manhattan. Ils sont passés sur la fameuse avenue Broadway. Il y avait une pluie de confettis. On a vu une foule joyeuse saluer la Team USA sacrée dimanche soir à Lyon, les championnes du monde de foot donc. Et ils ont pu vérifier, tout ce groupe, eh bien, leur popularité. Elles ont été reçues comme des reines par les New-Yorkais, mais iront-elles à la Maison-Blanche pour Megan Rapinoe, la joueuse aux 160 sélections et 50 buts inscrits? La décision est prise, sa décision. Et elle a expliqué pourquoi sur CNN, comme si elle se parlait au président Trump.
Je pense que votre message exclut les gens. Vous m'excluez moi, vous excluez les gens qui me ressemblent, vous excluez les gens de couleur, vous excluez des Américains qui peut-être vous soutiennent. Je pense qu'il faudrait réévaluer votre message « Make America Great Again ». Je pense que vous vous référez à une époque qui n'était pas satisfaisante pour tout le monde. Elle l'était peut-être pour quelques personnes, mais aujourd'hui, elle ne l'est pas pour suffisamment d'Américains sur la planète. Et je pense que nous avons tous une responsabilité. Vous avez une grande responsabilité en tant que dirigeant de ce pays, de prendre soin de chaque individu, et vous vous devez de faire mieux pour tout le monde.
Alors, à raison ou à tort, on saura si les filles iront à la Maison Blanche. En tout cas, Franck, vous qui avez suivi la Coupe des filles et vous avez écrit un intéressant portrait de Megan Rapinoe dans France Football cette semaine, c'est le symbole de cette Amérique qui gagne, Megan Rapinoe.
C'est surtout le symbole d'une révolte des joueuses aujourd'hui, des joueuses professionnelles, des joueuses américaines contre le système, contre une fédération. Voilà, on réclame une certaine égalité.
D'ailleurs, elles ont crié.
Il y a une loi aux États-Unis.
Elles ont crié dans les rues de New York, pay equal.
Voilà, c'est ça. Et depuis, elles ont attaqué leur fédération début mars, il ne faut pas l'oublier. Et donc, Megan Rapinoe, comme elle l'expliquait, elle est porte-parole aussi de toutes ces joueuses, à la fois des internationales, mais aussi des autres, puisqu'elles étaient 28 à attaquer la fédération. Ça ne l'a pas empêché de remercier sa fédération pour le soutien pendant la compétition. Elle n'est pas folle non plus. Après, elle représente aussi la communauté LGBT. Donc ça, c'est important. C'est un message qu'on a entendu tout à l'heure en disant vis-à-vis du président Trump, vous nous prenez pas en considération. C'est pareil pour ce qu'on appelle les minorités. Et elle combat tout ça. C'est une rebelle avec plusieurs causes, pas une seule cause. Elle est exemplaire et on peut imaginer qu'elle ne va pas s'arrêter en si bon chemin.
Et elles sont extra populaires, hein, parce qu'on les a vues dans les rues de New York et c'était vraiment intéressant
à voir. Grande fête pour elle.
Exactement. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir animé la nuit de nos auditeurs et de ceux qui nous regardaient sur Facebook Live. Merci aussi à l'équipe de la vidéo, Souhel Kedir et Laure Tamperville. Merci aussi à Laurent Salerno qui était à la réalisation avec Alice Ménard. David Finzel fidèlement était là et nous fidèlement on vous dit à demain. Merci à tous.